Bonjour, vous êtes sur DietFM et vous écoutez Ambivalence, un programme de rencontre qui associe électronique, oblique et stéréolux. Après les mutations environnementales et les mutations du vivant, retrouvez lors du festival maintenant les mutations politiques. Pauline Briand, Julie Morel, Christophe Bruneau, découvrez les artistes et intervenants du projet. Bonne écoute!
Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver cet après-midi ici au Tambour pour ce nouveau rendez-vous de notre cycle de rencontres ambivalence. On va s'intéresser cet après-midi à la question des mutations politiques et je voudrais évidemment dire un grand merci aux équipes du CREA et du service culturel de Rennes 2 qui nous accueillent à nouveau cet après-midi. Ambivalence, c'est un cycle de rencontres qu'on mène à plusieurs mains avec nos complices des festivals Interstice à Caen et Stéréolux à Nantes. J'ai pas si spécifié qu'effectivement, on est dans le cadre du festival Maintenant qui démarre aujourd'hui. Et je vous présente Luc Brou, notre complice canet, qui va nous parler un peu de ce cycle de rencontres.
Oui, bonjour donc avec Martin Lambert de Stéréolux qui produit le festival Scopitone à Nantes. Moi-même de Oblique, plateforme agriculture numérique en Normandie pour le festival Interstice, et puis donc Samuel Arnoux pour le festival Maintenant. Nous organisons un cycle de conférences depuis maintenant 3 ans, donc nous sommes dans le troisième et dernier cycle, qui est composé chaque année de 3 rendez-vous, à Caen, à Nantes et à Rennes, ou plutôt dans l'ordre à Rennes, à Caen et à Nantes, à chaque fois sur une thématique différente autour des mutations numériques, en invitant des artistes, chercheurs et chercheuses à s'exprimer sur le sujet. Donc là, une troisième et dernière saison sur les mutations politiques, avec un prochain rendez-vous en mai à Caen, et puis en septembre à Nantes. Et puis nous verrons, nous n'avons pas encore décidé des suites à donner à ce cycle-là. L'idée du cycle, c'était d'avoir un travail dans la durée, dans la continuité, pour éviter de recycler ou de reformuler systématiquement le même type de conférence, donc d'avoir une évolution dans la réflexion et puis dans les personnes invitées à intervenir sur ces thèmes-là. Voilà. On va donner la parole à Pauline Briand, qui va introduire la rencontre, nous présenter les personnalités invitées qui vont intervenir ensuite. Voilà. Je vous remercie à toutes et à tous. Et une dernière précision, les rencontres sont filmées, enregistrées. Alors aujourd'hui, elles sont disponibles sur chacun de nos sites ou chacune de nos plateformes. Et à l'issue de l'ensemble de ces cycles, voilà, on regroupera tout ça pour avoir un projet éditorial vidéo qui corresponde à l'idée de ce que nous faisons d'ambivalence. Voilà, je vous remercie.
Merci Luc, merci Samuel. Bonjour à toutes et tous. Attendez, je vais bien régler ça parce qu'après. Bonjour à toutes et tous. Avec ce rendez-vous, nous inaugurons le dernier temps des rencontres ambivalence qui nous ont amenés durant 3 ans à réfléchir aux mutations écologiques, aux mutations du vivant et aux mutations politiques. Et aux mutations politiques qui innervent notre époque par le prisme du numérique, des technologies, de l'art et des sciences. Pour aborder le vaste sujet que constitue la question des mutations politiques à l'ère du numérique, j'ai décidé de choisir l'angle de la condition des femmes. Cette introduction n'a pas l'ambition d'être exhaustive, mais d'activer la réflexion, de montrer la diversité et la multiplicité des formes et des échelles sous lesquelles ces mutations se manifestent à l'ère du numérique. Une profusion que nous explorerons tout au long des rendez-vous d'ambivalence cette année. Il y a quelques années, j'ai suivi le MOOC Challenges of Global Poverty sur les enjeux planétaires de la pauvreté des prix Nobel d'économie Esther Duflo et Abhijit Vinayak Banerjee. Leur méthode de recherche, basée sur des études randomisées, inspirées des essais cliniques, montre comment les personnes pauvres vivent et font des choix. Elles permettent de tester l'impact des politiques mises en place et souvent de mettre à mal les idées reçues. L'une de ces études, réalisée en Inde, portait sur la manière dont les dépenses des foyers, souvent décidées par les femmes, étaient redistribuées après l'obtention d'une aide pour l'achat du riz. Les concepteurs de cette aide pensaient que les bénéficiaires s'en serviraient pour acheter des légumes ou des protéines, améliorer leur nutrition. Mais l'argent épargné servait bien plus souvent à faire l'acquisition d'un smartphone. Comme souvent, quand il s'agit de la gestion de leur argent par les plus pauvres, des personnes se sont indignées de cette utilisation. Mais des entretiens avec les bénéficiaires ont montré que pour elles, le smartphone était un moyen d'être intégré dans la société. Un enjeu tout aussi important que d'avoir une bonne nutrition, notamment si l'on souhaite sortir de la pauvreté. Un constat qui évoque l'image puissante qui ouvrait un article sur la transition démographique. Nous étions là aussi en Inde. Le journaliste se trouvait à une réunion de femmes habitant les bidonvilles de New Delhi. Son attention avait été attirée par de petites lumières qui couraient sous leur sari, celles de leur smartphone. Un accès à l'information personnalisée, loin de la surveillance de leur famille. L'article montrait ensuite le lien entre cet accès facilité à l'information et la capacité de ces femmes pauvres à décider du nombre d'enfants qu'elles souhaitaient avoir. Le smartphone et Internet comme facteur d'émancipation. L'accès aux technologies est aussi hautement politique. Pourtant, ce sont ces mêmes technologies qui trahissent aujourd'hui certaines femmes américaines souhaitant se faire avorter après la révocation de la jurisprudence Roe versus Wade. Dans un article écrit pour le New Yorker datant du mois de juin, Gia Tolentino écrivait, et voici ma traduction, « L'avenir dans lequel nous vivons aujourd'hui ne ressemblera pas au passé d'avant Roe, lorsque les femmes cherchaient à avorter illégalement et trouvaient souvent la mort. Le principal danger est désormais ailleurs, avec des conséquences bien plus étendues. Le principal danger est des... Pardon, j'ai raté une ligne. avec des conséquences bien plus étendues. Nous sommes entrés dans une ère, non pas d'avortement dangereux, mais de surveillance par l'État et de criminalisation généralisée des femmes enceintes, mais aussi des médecins, des pharmaciens, du personnel des cliniques, des bénévoles, des amis et des membres de la famille et de toute personne qui entre en contact avec une grossesse qui ne se termine pas par une naissance saine. Elle soulignait le rôle central joué par les nouvelles technologies dans cet appareil répressif. Comment préserver son intimité, son droit à la vie privée et au choix à une époque où tant d'aspects de nos vies, de la communication avec nos proches ou des professionnels de santé, à l'accès à l'information, en passant par l'organisation de notre emploi du temps, le suivi de nos cycles, nos achats, nos déplacements et bien d'autres choses, passe par le numérique et des plateformes dont les données peuvent être perquisitionnées. Pour les femmes qui souhaiteront se faire avorter dans des états où cela est interdit, c'est toute une discipline de l'évasion numérique qui devra se mettre en place. Heureusement, le numérique fera aussi partie des solutions, avec par exemple le recours à la téléconsultation dans les États qui le permettent encore. Si nous poursuivons sur la thématique du contrôle et de la normativité sociale envers les corps féminins, les réseaux sociaux, et tout particulièrement Instagram, mettent en avant certaines représentations de ces corps et certains physiques. Ainsi, la chanteuse Lizzo s'était étonnée de voir les vidéos d'elle en bikini effacées par TikTok quand elle ne l'était pas pour des femmes plus minces. Il a par ailleurs été maintes fois montré que les algorithmes des réseaux sociaux tendent à invisibiliser et censurer les corps des personnes handicapées, queer ou trans. Une normativité aux effets dévastateurs dont les plateformes sont conscientes, comme l'a révélé la lanceuse d'alerte Frances Hogan, dévoilant que des études internes à Facebook, propriétaire d'Instagram et aujourd'hui appelé Meta, montraient que passer du temps sur Instagram accentuait l'insatisfaction des adolescentes envers leur corps, mais aussi leurs troubles alimentaires et leurs pensées suicidaires. À l'époque, Facebook n'a cependant rien fait pour changer son algorithme très performant pour générer des clics. Et pourtant, c'est aujourd'hui sur ces mêmes réseaux sociaux que l'on voit les femmes iraniennes manifester tête découverte, se couper les cheveux et brûler leur hijab au péril de leur vie à la suite de l'assassinat de Mahsa Amini. Une révolte qui, comme les printemps arabes, les mouvements sociaux au Chili ou au Sri Lanka, les gilets jaunes, Friday for the Future et Extinction Rebellion, ou de manière plus sinistre, les Proud Boys et le Tea Party, n'auraient pas eu la même résonance et le même soutien sans cette visibilité. Mais la visibilité sur Internet d'un mouvement populaire peut être trompeuse. Une étude menée à l'Université d'Harvard montre que les mouvements contestataires pacifiques sont de moins en moins souvent suivis des changements qu'ils appellent. Là encore, l'importance prise par le numérique en serait l'une des raisons. Au début des années 2000, deux tiers des mouvements réclamant des changements systémiques obtenaient gain de cause, contre 1/6 aujourd'hui. Les chercheurs attribuent ce déclin à différents facteurs, comme la polarisation des sociétés et l'effet de bulle favorisé par les réseaux sociaux, mais aussi à l'accès à l'information par des groupes affinitaires, comme WhatsApp ou Telegram, comme par exemple sur WhatsApp ou Telegram. Cette polarisation tend à faire passer les manifestants pour une minorité représentant les intérêts d'un groupe marginal. La facilité avec laquelle il est possible de mobiliser un nombre important de manifestants grâce aux réseaux sociaux, sans avoir besoin de leaders ou d'organisations fastidieuses, a, quant à elle, des effets pernicieux sur l'impact réel de ces mouvements, qui auparavant nécessitaient des mois de préparation, la constitution d'alliances, la formulation de revendications claires et l'incarnation du combat. Elles sont impressionnantes par leur ampleur, mais sont souvent des feux de paille. Par ailleurs, les tenants du pouvoir ont aussi appris à s'adapter à ces modes de contestation par la surveillance, le harcèlement en ligne, une propagande souvent aussi virale que les messages de révolte et par la censure. Pour les chercheurs, en Iran, le rôle des femmes devient alors crucial parce que les manifestantes, que ce soit dans les rues ou en ligne, viennent de milieux très variés, une possibilité de dépasser l'écueil de la polarisation pour faire bouger la société dans son intégralité. Un facteur qui permettra peut-être aux Iraniennes et aux Iraniens qui manifestent ces jours-ci d'obtenir les changements pour lesquels ils se battent. La mutation politique se fait aussi au niveau des imaginaires et des valeurs. Nous savons que l'imaginaire lié au numérique et aux technologies est souvent représenté comme masculin. Les pionnières ont été invisibilisées, les secteurs du numérique et des technologies emploient en majorité des hommes, et la censure en 2021 des livres Girls Who Code dans certaines écoles de l'État de Pennsylvanie en atteste. Pourtant, Donna Haraway a aperçu le cyborg comme une figure émancipatrice face à une vision binaire et essentialiste du genre. Je pense aussi aux notions de hacking, de commun et d'open source, chères aux activistes du numérique, qui sont aussi reprises pour briser les visions patriarcales de la société et tracer des chemins de traverse. Hacking with Care est de ce point de vue un projet qui me tient particulièrement à cœur. Ce livret open source, développé par Emily King et Jérémy Zimmerman, se situe à la jonction des univers numériques et féministes, puisqu'il s'agit d'un manuel d'exercice physique conçu pour les personnes qui, rivées derrière leur ordinateur, risquent d'oublier leur corps, qui au final se rappellera douloureusement à leur attention. Il y a aussi la manière dont le féminisme s'empare des questions numériques pour faire évoluer les logiques qui gouvernent nos rapports à ces technologies, avec par exemple l'approche féministe aux données développées par la juriste Gloria Gonzalez-Fuster ou les récits spéculatifs et cyberféministes de Spider Alex, une hackeuse et activiste. Au travers de ces exemples qui abordent la question des mutations politiques au prisme de la condition des femmes et du féminisme, de l'intime au public, j'ai voulu illustrer la manière dont la couche de numérique s'est moulée sur la peau du monde, tout en continuité, en exacerbation et en interpénétration. J'ai choisi ce prisme parce qu'il permettait, me semble-t-il, d'illustrer le rôle ambivalent du numérique et des technologies sur la question politique dans nos sociétés et comment il la faisait évoluer. Se dégagent des thématiques fortes, comme la séparation entre le privé et le public, la question de l'accès aux technologies et le consumérisme, de leur matérialité les situations hégémoniques, la surveillance, l'engagement, la souveraineté technologique, la liberté de s'exprimer et ses limites. À la jonction du numérique et du politique, les artistes, les hackers et les activistes se retrouvent pour interroger activement la place trop peu souvent débattue des technologies dans nos sociétés. Ils utilisent l'humour, le bricolage, l'absurde, le code, la flibuste, la performance, le détournement, l'édition, la destruction, l'archivage, le récit et bien d'autres moyens d'expression pour interroger ces grandes thématiques et nous faire prendre conscience de leurs enjeux. Ce sont ces cheminements que Jean-Paul Fourmentreau a étudiés et qu'il nous présentera durant la première partie de ses rencontres. Ce sont ces sujets dont nos invités, Gwenola Wagon, Christophe Bruno et Julie Morel, se sont emparés et dont nous discuterons dans un second temps au cours d'une table ronde à laquelle vous serez toutes et tous invités à participer. Merci. Je vais maintenant inviter Jean-Paul Fourmentreau à me rejoindre. Jean-Paul, vous êtes socio-anthropologue et critique d'art, professeur à l'université Aix-Marseille. Vous êtes membre du centre Norbert Elias à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur les contre-cultures, avec contre, entre parenthèses, numérique, dont Art et Internet, l'ère post-média, l'œuvre virale, identité numérique et en 2020, Antidata, la désobéissance numérique, art et activisme technocritique. C'est à vous.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci Samuel et à toute l'équipe aussi d'Electronica pour cette invitation. Donc je vais essayer de répondre à la commande, pour ainsi dire, de traiter cette question des relations entre art et politique avec le prisme de l'activisme. Peut-être en démarrant sur une étude de cas, on pourrait dire, enfin, une enquête sur une œuvre qui a été l'objet d'une controverse. À l'heure où s'instaure une banalisation de la surveillance, les technologies semblent parfois mises au service d'une politique antisociale. La recrudescence des dispositifs de sécurité post-attentat du 11 septembre, l'instauration d'une loi controversée dite de sécurité globale, mais aussi l'injonction au confinement ou au couvre-feu suite à l'éruption de la pandémie de Covid-19, ont constitué autant de mesures liberticides qui ont mis à mal les droits fondamentaux et la vie privée. Sous couvert d'une vigilance partagée, présentée comme un facteur d'amélioration de la vie sociale, les États ont adopté des technologies numériques de plus en plus intrusives, la vidéosurveillance, la dataveillance, les drones, la biométrie, la géolocalisation, les puces RFID, etc. Dans ce contexte, des artistes et des associations citoyennes s'associent pour développer des contre-feux, pour reprendre le contrôle et renverser les rôles, surveillants, surveillés notamment, ainsi que les frontières de plus en plus floues de la surveillance contemporaine. Est-il encore possible de garantir une démocratie numérique? Les citoyens peuvent-ils exercer un droit de surveillance? L'art peut-il avoir un rôle à jouer ici? Voilà autant de questions que j'aimerais aborder avec vous et qui seront prolongées le temps de la table ronde, je pense. Alors peut-être, en guise d'introduction, comme ça, commencer par cette œuvre de Ito Steyerl, une sorte d'oracle des temps en cours et à venir, ceux de l'urgence, ceux de la terreur médiatique, une époque à laquelle la simulation et la virtualité règnent en maître. Voilà qui pose immédiatement la question de l'alerte. Qui alerte? Qui donne l'alerte? Et l'art peut-il aussi, en quelque sorte, donner l'alerte? En date du 1er octobre 2020, une campagne de pétition en ligne pour bannir la reconnaissance faciale en Europe avait déjà recueilli 14 000 signatures lorsque l'artiste, hacker et activiste italien Paolo Cirio, principal initiateur de cette pétition, décidait d'y associer une performance in situ dans le centre-ville de Paris. Parcourant de long en large la capitale française, il y affiche des centaines d'images de visages de policiers récupérés sur Internet. L'affichage sauvage est une pratique récurrente pour cet artiste, dont l'œuvre, entre street art et net art, on pourrait dire, est inscrite à mi-chemin de l'espace public et des plateformes Internet. Ces actions prennent notamment pour cible les atteintes à la vie privée et à la liberté d'expression engendrées par l'économie invasive des technologies de contrôle et de surveillance. Des portraits d'agents des forces de l'ordre, en gros plan, zoomés et recadrés, se trouvent ici une première fois exposés dans l'espace public, sans revendication à ce moment-là d'aucune intentionnalité artistique. Il s'agit pour la plupart de clichés photographiques ou de séquences vidéo circulant déjà sur la toile, préalablement captées par les médias ou par les citoyens lors de manifestations et postées sur différents comptes Internet, des sites web, des blogs, des réseaux sociaux tels qu'Instagram. Simultanément, ces mêmes portraits sont également postés sur une plateforme en ligne intitulée CapturePolice.com. Un site Internet développé par Paolo Cirio permettant d'accéder à une base de données de plus de 4000 photos d'agents de police français. Ces images portraits y sont ensuite soumises aux technologies de reconnaissance faciale devant permettre, au moins potentiellement, d'identifier les agents de police. Ces actions simultanées, le site web, la pétition en ligne, l'affichage sauvage aussi, composent les différents volets, les trois volets d'une œuvre composite baptisée Capture, que l'artiste Paolo Cirio réalise à l'invitation du Frénois, ce studio national d'art contemporain dirigé par l'artiste et écrivain Alain Fléchère à Tourcoing dans la région nord de France. Le volet installation du projet doit y être montré lors d'une exposition collective au titre évocateur « Sentinelle » dont Louise Derry assure le commissariat et projette l'ouverture à la mi-octobre 2020. L'installation de Paolo Cirio que vous voyez ici présente une sélection de 150 portraits de policiers en tenue d'émeute. Une sélection d'images qui les tire en une matrice de visages juxtaposés verticalement et côte à côte sur toute la surface d'un mur long d'environ 15 mètres. La frise laisse émerger 7 tirages d'art plus soignés ou agrandis qui exposent en gros plan des visages d'agents de police non identifiés en position de tirer sur des manifestants, composant ainsi une sorte de peloton d'exécution. L'ambivalence du terme « sentinelle », qui n'a pas échappé à la commissaire d'exposition, met en exergue deux significations contrastées. L'une place l'artiste à l'avant-garde, ou à l'avant-poste, disons, de l'observation du monde, dans un souci de vigilance, de voyance, de veille, d'éveil. L'autre s'intéresse davantage à la part invisible ou invisibilisée du monde, dissimulé derrière les apparences. Incarnant ainsi doublement la vigie qui veille et surveille et la luciole qui littéralement met à la lumière, Paolo Cirio se propose d'incarner la figure du guetteur, de l'observateur vigilant qui tantôt guide, accompagne et éclaire le chemin, tantôt alerte et prévient des risques encourus ou des dangers à venir. Non sans un brin de provocation, il ambitionne d'exposer l'ensemble de la population et les policiers eux-mêmes aux risques et dangers de la généralisation et prolifération des technologies de contrôle. Autrement dit, afin d'alerter les citoyens et usagers de l'espace public, physique et numérique, du danger et des abus potentiels de la reconnaissance faciale, l'artiste emploie en quelque sorte la tactique de l'arroseur arrosé et décide de soumettre les agents des forces de l'ordre eux-mêmes aux potentielles dérives des technologies et de leurs usages équivoques. Mais l'exposition Sentinelle n'est pas encore inaugurée et ouverte au public lorsque le 1er octobre 2020, en parallèle donc de l'intervention de l'artiste dans les rues de Paris, le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ayant pris connaissance du projet, publie un premier message d'indignation sur son compte Twitter. Insupportable mise au pilori de femmes et d'hommes qui risquent leur vie pour nous protéger. Je demande la déprogrammation de l'exposition et le retrait des photos de son site, sous peine de saisir les juridictions compétentes. L'emballement médiatique suivra, dont les effets auront un caractère pour le moins équivoque. Certains y verront une publicité pour l'artiste et lanceur d'alerte, gracieusement amplifiée par l'émoi du Premier ministre, et les commentaires de certains internautes en écho au message de Gérald Darmanin sur son propre compte Twitter sont à cet égard assez éloquents. D'autres plébisciteront au contraire la décision prise par le ministre et par le gouvernement, tant elle leur paraît justifiée et urgente en cette période de fragilisation des agents de l'ordre, dont l'identité est en effet plus fréquemment révélée sur les réseaux sociaux. Le lendemain, en date du 2 octobre 2020, Gérald Darmanin s'engage publiquement à garantir une plus grande protection des policiers en leur promettant notamment de mieux protéger leur anonymat. Dans un même élan, cet ancien maire de la ville de Tourcoing, jusqu'à sa nomination dans le gouvernement Macron en septembre 2019, décide donc d'intervenir directement auprès de l'institution du Fresnois en exigeant la déprogrammation de l'exposition. Alors évidemment, il serait quelque peu réducteur de voir rétrospectivement dans cette déclaration les prémices du désormais controversé article 24 de la loi sur la sécurité globale, constituant en délit la capture d'images, photos ou vidéos graphiques de policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Mais la succession des événements et l'enchaînement des mesures peut toutefois paraître troublante. Le point de discorde ne porte pas au départ sur la seule représentation visuelle des agents des forces de l'ordre, qui demeure jusqu'ici un droit démocratique, tout au moins avant l'irruption, précisément dans le débat public, de cet article 24 de proposition de loi dite de sécurité globale. Une circulaire du ministère de l'Intérieur datant du 23 décembre 2008 affirmait en effet très clairement que les policiers et gendarmes ne pouvaient s'opposer à l'enregistrement de leur image lorsqu'ils effectuaient une mission. La loi interdit donc aux fonctionnaires de s'opposer à l'enregistrement de leur image, que celui-ci soit réalisé par un journaliste ou par un simple citoyen. En outre, la diffusion de ces images dans un objectif de médiatisation est également autorisée, sauf si ces images concernent des fonctionnaires appartenant à un haut corps spécifique et sensible de l'État, tels que le RAID, le GIPN, la DGSI, etc. Au Fresnois, la crispation et le point de tension portent davantage sur ce qui sera perçu par le gouvernement, mais aussi par l'institution artistique, comme une possible incitation à l'identification des forces de l'ordre. Soit la partie, moins la partie qui est exposée finalement, que le site web et son invitation faite aux internautes de déclarer et de rendre publique l'identité privée des agents photographiés. Autrement dit, le différent porte moins sur la figuration que sur le profilage des agents. Une technique qui ne constitue pourtant qu'une application possible et en outre largement répandue de la reconnaissance faciale, précisément celle que souhaite dénoncer l'artiste Paolo Cirio. Un usage de la reconnaissance faciale en tout point similaire à ce que permet Clearview, par exemple, faisant ainsi référence à une entreprise américaine qui extrait des images d'Internet, établit un profil des visages et vend ces données aux forces de l'ordre. Pour le gouvernement, cette œuvre, ainsi exposée, présentait une incitation à la délation et constituait en ce sens un outrage inadmissible au devoir de protection de ceux qui nous protègent. Et selon le Fresnois, la prérogative offerte par le site web ne faisait nullement partie du projet initialement défendu par l'artiste et n'aurait jamais reçu l'aval du Studio National d'Art Contemporain. Entre-temps, au Fresnois, un panneau de contreplaqué est venu obstruer l'œuvre de l'artiste, rendant invisible l'ensemble des photographies. Un panneau de bois peint en bleu sur lequel, quelques jours plus tard, est momentanément apparu un message anonymement tagué à la bombe de peinture ou une série d'affichages sauvages indiquant la honte. Oups. Il semble que j'ai un petit problème technique. Désolé. Ça a planté là. redémarrer, mais peut-être quitter. Attends, quitter PowerPoint. Peut-être tu peux remettre la page d'accueil là-haut. Le temps que je me remets. Ouais, ça va aller. Cela dit, si vous avez une question, c'est le moment parce qu'on n'aura peut-être pas le temps après.
Si quelqu'un a une question, on pourrait partir dans des spéculations sur ce qui vient de se passer, peut-être. Sabotage, je ne sais pas. Non.
Bon, je crois que je peux reprendre. Excusez-moi pour ce contretemps. Malgré de nombreux soutiens, après réception de nombreux messages d'intimidation et de menaces, l'artiste choisit quant à lui de quitter la France pour regagner son domicile dans la ville de Turin, en Italie. Le site web de capture.org sera également fermé, son adresse URL redirigeant désormais les internautes directement vers la page web de la pétition en ligne requérant l'interdiction de la reconnaissance faciale en Europe, qui avait recueilli entre-temps un peu moins de 52 000 signatures. Au-delà de la polémique qu'il a pu susciter, le projet de Paolo Cirio a ravivé un débat séculaire. Peut-on filmer et photographier les forces de l'ordre ? En France, le projet de loi de sécurité globale a cristallisé les tensions. Le 10 novembre 2020, une tribune émanant de plusieurs sociétés de journalistes et de rédacteurs de grands médias français pointait et dénonçait les dérives liberticides pour la liberté d'expression de cet article 24 de proposition de la loi. Cette mesure, je cite, qui vise à limiter la diffusion d'images des forces de l'ordre, ne peut qu'attenter à la liberté d'informer, celle des journalistes et plus généralement celle de tout citoyen. Unanimement, il a été demandé aux parlementaires, en vertu des droits démocratiques essentiels, que cet article puisse être retiré du texte de loi. Ce n'était pas tant l'objectif affiché par les promoteurs de l'article 24 visant à protéger ceux qui nous protègent qui était contesté, mais cette intention louable ne devait et ne pouvait en aucun cas justifier la privation de liberté des journalistes comme des citoyens susceptibles d'être poursuivis pour avoir diffusé, par quelque moyen que ce soit, l'image du visage ou tout autre élément d'identification, à l'exception du numéro de matricule Rio, que les policiers ou gendarmes en exercice sont tenus de porter sur leur uniforme. Ce nouvel article, dans sa première version, était en effet assorti de la création et définition d'un délit ad hoc, puni d'un an de prison et de 45 000 euros d'amende. Adopté une première fois à l'Assemblée nationale le 17 novembre 2020, l'article 24 a finalement fait l'objet d'un toilettage d'abord et s'est vu renommé « loi de sécurité globale préservant les libertés » avant d'être retoqué par le Sénat et abandonné. Dans un contexte de renforcement des lois sécuritaires, le gouvernement a donc pris position. S'ensuit ici une asymétrie de pouvoir. D'un côté, l'opacité revendiquée et l'entrave à la liberté d'informer. D'un autre, la transparence contrainte pour les citoyens et un récit public à la seule main des autorités. Pour le gouvernement et ses forces de l'ordre, le renforcement de la surveillance est censé garantir et renforcer la paix sociale, traquant et prévenant tout acte de délinquance. La plus grande transparence est par conséquent demandée aux citoyens concernant leur activité, leurs déplacements, mais aussi leurs données. À l'inverse, les autorités, elles, revendiquent désormais pour leur propre compte la plus grande opacité. Depuis quelques années, suite à la multiplication des attentats terroristes et dans le cadre de la prorogation de l'état d'urgence, les gouvernants ont plus fréquemment recours à l'analyse algorithmique des images de vidéosurveillance, ainsi qu'aux technologies et applications de reconnaissance faciale. L'objectif premier est la surveillance des territoires et l'identification d'éventuels comportements suspects. Mais ces mêmes outils ont désormais une autre utilité, qui est l'identification des civils, manifestants et minorités lors d'affrontements publics. Il en résulte une surveillance généralisée, souvent dénoncée par les associations de défense des libertés publiques, comme susceptible d'accentuer les discriminations et les dérives autoritaires. Dans ce contexte, l'œuvre de Paolo Cirio a fait office de détonateur. En ciblant les forces de l'ordre plutôt que de présumés citoyens délinquants, elle épingle l'absence de réglementation sur la protection de la vie privée et joue, déjoue, avec une ironie certaine, les technologies de la reconnaissance faciale qui peuvent aisément se retourner contre les autorités qui en vantent et en recommandent l'utilisation. Comment en effet soutenir l'idée d'un vol de données et d'images privées à l'ère des médias d'exposition de soi ou de surexposition de soi ? L'accusation peut en effet paraître inappropriée à l'heure où les plateformes Internet et les réseaux sociaux reposent, comme l'a montré Bernard Harcourt, sur une servitude volontaire qui s'exerce ici de part et d'autre, du côté des policiers, qui avaient publié eux-mêmes une partie de leurs images, comme du côté des citoyens, dont les policiers font bien évidemment partie avec ou sans uniforme. Internet engage davantage un don d'image et un abandon de soi auquel les internautes ont dû consentir, le plus souvent sans bien mesurer les incidences de cet abandon. En ce sens, les plateformes numériques composent désormais ce vaste supermarché des images dont la circulation, l'emploi et le réemploi paraissent moins préoccupants que leur possible instrumentalisation par les GAFAM, aux seules fins d'intensifier la consommation et le contrôle des individus, avec l'assentiment et la collaboration des États. À ce titre, l'œuvre de Paolo Cirio déploie en quelque sorte, un art de la sous-veillance, visant à détourner les instruments de la surveillance panoptique exercés par les détenteurs du pouvoir, la police, le gouvernement, le renseignement, les GAFA. Autrement dit, l'intention sous-jacente réside moins ici dans l'identification du visage des policiers que dans l'ouverture de la boîte noire du programme politique et de ses nouvelles technologies de contrôle, conjointement mobilisées par l'État et par le capitalisme de surveillance. Le projet orchestré par Paolo Cirio traite en effet davantage des dangers et des effets pervers de la reconnaissance faciale, mise au service d'une surveillance généralisée pourchassant toute zone d'ombre et d'opacité, que sur les images en tant que telles qui résultent de ce processus. La sous-veillance revient ici à mener une contre-observation, surveiller les surveillants, rendre publics les systèmes de surveillance et révéler l'identité des autorités qui les contrôlent afin de dénoncer leur excès coercitif et liberticide. C'est alors la dimension citoyenne de l'acte de surveiller qui est mise en avant et encouragée, l'enjeu d'un tel projet résidant en effet dans sa révélation des coulisses et des mécanismes invisibles du projet autoritaire de la surveillance numérique. L'installation artistique, de ce point de vue, ne constitue que la face émergée et visible du projet, qui est complétée par la pétition en ligne et l'affichage sauvage qui incarne un second volet, disons, davantage citoyen et militant de cette même initiative. C'est alors non plus seulement le monde de l'art qui est investi, mais la place publique et les forums numériques, autant que la sphère militante et médiatique, en dialogue avec le soutien des associations citoyennes qui militent pour la préservation de la liberté d'expression et pour la régulation des plateformes numériques. En dernier ressort, si le projet Capture a bel et bien été entravé, son exposition ayant dû être annulée, sa publicité inattendue aura fait de ce projet un jalon, peut-être, dans l'émergence d'un débat public au long cours et qui reste encore d'actualité. Je vais aller plus vite sur d'autres projets de Paolo Cirio avec lequel Capture résonne et dont le mode opératoire consistait déjà à réinjecter des données privatisées et arbitrairement occultées dans l'espace public. Depuis 2012, l'œuvre Street Ghost a pris pour cible l'application Google Street View et ses 9 caméras intrusives, Nine Eyes, qui scannent visuellement et cartographient numériquement toute l'étendue du globe. Paolo Cirio proposait cette fois de détourner ces portraits panoptiques, eux-mêmes souvent illégaux, même lorsqu'ils sont floutés par l'application, afin de pallier aux nombreuses plaintes émises par des particuliers à l'encontre de l'entreprise. L'artiste va choisir d'afficher dans l'espace public de nos centres urbains, sur le lieu précis où elles ont été prises à leur insu, les silhouettes, les photographies de silhouettes de personnes capturées par les caméras de Google. Ces portraits de personnes saisies au hasard dans la rue par la Google Car, sans leur autorisation, sont en effet imprimés et affichés grandeur nature à l'endroit même où les prises de vue ont été réalisées. Il en résulte des spectres numériques qui viennent littéralement hanter l'espace public à l'interface du monde réel dont elles proviennent et du monde virtuel qui les exploite. Les street ghosts incarnent donc les victimes algorithmiques, on pourrait dire, de nos sociétés de l'information, un dommage collatéral sans doute de la guerre que se livrent les multinationales du numérique, les gouvernements et les algorithmes. Exfiltrés du réseau, placardés sur les murs de nos villes, leurs silhouettes de papier en basse définition agissent comme des signaux d'alarme. Glissant d'une existence numérique à une présence réelle, dans l'espace public, elles peuvent être reprises en main par les internautes eux-mêmes. Une autre action de l'artiste italien Paolo Cirio éclaire les paradoxes aussi bien que les risques et dérives du contrôle et de la manipulation sociale des individus. L'œuvre Face to Facebook, conçue en partenariat avec l'artiste-programmeur Alessandro Ludovico, procède du vol d'un million de profils d'utilisateurs Facebook et de leur traitement par des algorithmes de reconnaissance faciale. À partir du piratage de la base de données de Facebook, les deux artistes ont procédé à l'implémentation d'une sélection de 250 000 profils au cœur d'un site de rencontre en ligne fictif, inventé de toutes pièces, nommé lovelyface.com. Le détournement s'opérait sur le mode d'une attaque virale conçue pour éclairer les risques du partage et de la surveillance des informations personnelles sensibles. Publié à l'insu des internautes, Les profils privés se voyaient exposés et mis en relation selon leur caractère, arriviste, sournois, etc. Une intelligence artificielle était censée analyser les expressions faciales afin d'estimer le taux de compatibilité des utilisateurs et de favoriser ainsi leur rencontre potentielle. L'œuvre singeait et parodiait le pouvoir des réseaux sociaux et les dangers d'une mainmise sur nos données, révélant la violabilité de celles-ci et exposant les coulisses, encore une fois, de leur exploitation technique. En 2014, Overexposed proposait un premier retournement de cette tyrannie de la visibilité. Faisant suite aux révélations d'Edward Snowden en 2013, Paolo Cirio prenait pour cible cette fois l'identité de plusieurs hauts représentants américains, les portraits photographiques d'agents de la National Security Agency, la NSA, de la CIA ou du FBI, se trouvaient à leur tour épinglés dans l'espace public. Là encore, la satire politique de Cirio inversait les moyens de propagande contemporains en révélant comment des images censées être protégées pouvaient avoir été capturées à l'insu des agents dans leur sphère domestique et familiale avant d'être postées sur les réseaux sociaux. Les identités de Case Alexander, John Brennan, James Comey, entre autres, ont ainsi été exposées au grand public à travers la circulation virale et l'affichage sauvage de photographies ayant fuité sur les réseaux sociaux. Adoptant ironiquement, encore une fois, la tactique de l'arroseur arrosé, l'œuvre exposait au grand jour le visage de ces hommes de l'ombre, fonctionnaires, responsables de la surveillance de masse et des programmes de renseignement classés secret défense. Composée d'une série de 9 photos non autorisées de ces hauts responsables des services de renseignement américains, l'œuvre a été placardée sur les murs de plusieurs villes à travers le monde. L'artiste a utilisé ensuite la technique HD Stencils permettant d'imprimer des pochoirs et de reproduire indéfiniment ces images murales à la bombe de peinture. Ce procédé technique utilisait des logiciels et des découpeurs laser sur mesure pour créer numériquement des pochoirs adaptés à la réalisation de graffitis en couleur à la peinture à aérosol. Là encore, l'enjeu consistait autant dans les images ainsi reproduites que dans la révélation des dangers de leur surexposition et exploitation médiatique, overexposed, à des fins qui échappaient largement aux auteurs et au sujet de ces images. Je voulais faire référence aussi à un autre artiste allemand, américain, mais vivant en Allemagne, Trevor Paglen, qui s'intéresse également au réseau invisible de la surveillance gouvernementale. Ces photographies prises sur différents théâtres d'opération dévoilent les infrastructures occultes de la nouvelle gouvernance mondiale et de l'état de surveillance américain, dont les structures effectives se dérobent au regard. L'artiste, cette fois, traque au téléobjectif, à distance, les bases secrètes de la CIA et de la NSA, ces stations d'écoute et de surveillance qui sont bien souvent dissimulées dans le désert californien ou en Virginie occidentale. Ces photographies, au téléobjectif ou au télescope, interroge les dispositifs de pouvoir mis en place au XXIe siècle. Où se situe-t-il et à quoi ressemble-t-il? Ici, par exemple, une station d'écoute cachée dans les forêts de Virginie occidentale. Ici, des photographies montrant des ciels perforés par ces nouveaux oiseaux de métal que sont les drones et les satellites. Ou le spectre, encore visible, des ondes électromagnétiques d'un système de radar entourant les États-Unis. Ici, la base de surveillance de la NSA à Cornwall, en Angleterre. Et enfin, ici, les câbles Internet sous-marins dans les bas-fonds de l'océan Atlantique. Une de ses œuvres les plus emblématiques, intitulée Sight Machine, réalisée en 2017, prend également la forme d'un concert multimédia en collaboration avec le Kronos Quartet, ce quatuor à cordes de San Francisco connu pour ses expérimentations musicales assez peu orthodoxes. Ce concert, qui intègre une performance algorithmique, soumet les musiciens au regard des machines, au regard de l'intelligence artificielle. Pendant que le Kronos Quartet interprète des œuvres de Laurie Anderson, Steve Reich ou Terry Riley, compositeurs qui ont tous en leur temps interrogé le pouvoir des machines, le quatuor est en effet surveillé par des caméras qui essaient d'enregistrer ou de capter leurs émotions pendant qu'ils jouent. Une intelligence artificielle traque en temps réel les comportements de chacun des interprètes, leurs caractéristiques sociales, leurs attitudes, jusqu'à leur humeur. La synthèse analytique de ce traitement algorithmique est ensuite directement projetée sur un écran derrière, à l'arrière des musiciens. Le public est donc doublement invité à vivre l'expérience du concert et à suivre les opérations par lesquelles cette machine de vision, sight machine, apprécie et évalue ce qui se passe parmi les musiciens. La vision des images projetées peut s'avérer troublante, les machines ne se contentant pas uniquement de percevoir, mais opérant également des interprétations, des traitements et des classements par l'intermédiaire de l'intelligence artificielle. L'œuvre donne en effet à voir les visages de chacun des musiciens sur lesquels s'affichent des valeurs exprimées en pourcentage qui résultent d'un traitement statistique en temps réel exécuté par la reconnaissance faciale. Cette utilisation d'algorithmes de détection associés à des systèmes de surveillance avancés mettant au jour la distance ou l'écart entre l'interprétation humaine et celle des machines. Est-il vraiment possible de quantifier l'inspiration, l'expression ou l'émotion humaine ? J'ai un peu de son normalement, mais pas là. Si l'intelligence artificielle semble ici encore largement défaillante, elle paraît maîtriser néanmoins un très grand nombre de données qu'elle traite afin de construire une possible interprétation visuelle des sentiments ou des traits de caractère de chacun des individus ainsi traqués. Ces applications de reconnaissance faciale s'avèrent pour le moins problématiques, notamment du fait de leur identification, de leur classement et surtout de leur évaluation et prescription des comportements et émotions des individus, déterminés en l'occurrence par la seule apparence de leur visage. Les empreintes visuelles qui en résultent sont la plupart du temps abusivement utilisées pour qualifier ou disqualifier une personne, décrypter des émotions, reconnaître et attribuer un genre ou une sexualité conforme ou au contraire déviante. Ces valeurs et mesures chiffrées devant des critères d'évaluation et de jugement, elles portent et induisent des risques de stigmatisation très fréquents. Autrement dit, l'IA ne se contente plus en effet de décrire ce qu'elle voit, mais elle évalue aussi, elle juge, ces jugements accentuant en réalité les stigmatisations et les préjugés humains préalablement implémentés dans la machine. Ce dont se joue ici l'artiste Ito Steyerl, qui retourne sur elle-même le dispositif de surveillance. Alors, l'utopie numérique a mal tourné ? Et Internet dans tout ça ? Ce territoire farouchement attaché à les libertés d'expression et de création, ce territoire accentré, non hiérarchique, héritier des zones d'autonomie temporaire théorisées par le philosophe Akinbe. Assiste-t-on aujourd'hui à une dystopie, au contraire, depuis le début des années 2000, depuis l'apparition des GAFAM peut-être ? Internet s'est recentralisé jusqu'à devenir un empire de la surveillance, tel que l'a montré Ignacio Ramonet. Il a laissé place à un capitalisme de surveillance, selon la philosophe Shoshana Zuboff. Ou à une société d'exposition de soi, au sens du juriste Bernard Harcourt, société d'exposition qui succéderait à la société du spectacle, présentée par Guy Debord, à la société de surveillance, théorisée par Foucault, ou encore à la société de contrôle, théorisée par Deleuze, ou peut-être une société qui les réunit toutes, avec la complicité ou la servitude volontaire des internautes. On assiste incontestablement à un virage technocritique, comme l'a montré l'historien François Jarige. Mais cette prise de conscience, ce constat, n'est pas pour autant désenchanté. Au contraire, elle constitue le terreau et le terrain des pratiques que l'on vient d'examiner ici, de pratiques alternatives entre art, hacking et activisme citoyen. Il ne vous aura pas échappé que plusieurs de ces exemples s'appuient sur la pratique de l'art, mais mobilisent aussi en dehors du seul monde de l'art des citoyens, des militants, activistes qui contribuent aux réflexions qui sont menées au sein de ces projets. Les artistes y font volontiers preuve aussi de dérision et d'humour. Leur critique est en ce sens moins déterministe que ne peut l'être la critique des techniques habituelles. Moins déterministe qu'émancipatrice, sans doute, puisqu'il s'agit de trouver des contre-emplois de la technologie, de pirater et de réaffecter les outils techniques, de fabriquer des récits, des narrations aussi, quitte à aller jusqu'au fake, de lutter contre la surveillance, l'empire des datas, l'obsolescence technique, etc. Le concept de surveillance est ici entendu dans le sens premier que lui donnait Steve Mann, l'ingénieur Steve Mann, qui désignait une forme de résistance face à la prolifération des caméras de surveillance. Il s'agissait selon lui de retourner les caméras vers le panopticon, c'est-à-dire de regarder par le bas, watching from below, pour défaire l'observation et la surveillance panoptique. Mais on pourrait dire que d'autres tactiques sont mobilisées ici par les artistes, qui sont mieux connues, elles, peut-être, de l'anthropologie, mais je ne vais pas développer ces points-là, peut-être qu'on les abordera pendant la discussion, mais telles que le braconnage ou la profanation, dont Ito Steyerl ou Paolo Cirio sont adeptes, qui peut-être même qualifient le courant des médias tactiques, dont De Certeau était une figure tutélaire, ou encore le bricolage, le sabotage, etc., qui sont des ressorts empruntés et développés par l'art ici dans ce contexte. Je vais m'arrêter là, merci beaucoup. Désolé pour les problèmes techniques.
Merci beaucoup Jean-Paul. Est-ce qu'il y aurait des questions directement en relation avec la présentation de Jean-Paul ? Je vous propose de garder les questions plus générales que vous pourriez avoir plutôt pour la table ronde et pour que l'ensemble des personnes invitées puissent y répondre.
Bonjour.
Bonjour.
J'aurais voulu savoir précisément ce que vous entendez par servitude volontaire. Est-ce que ça inclut le travail bénévole, enfin tout ce qui est travail non payé, non rémunéré sur Internet, ou est-ce que c'est plus large ? Enfin, je pense que c'est plus large évidemment, mais
peut-être que le digital labor qu'ont théorisé Dominique Cardon et Antonio Cassilli pourrait d'une certaine façon. Mais je pense que ce à quoi vous faites référence, c'est plutôt ça, et ce serait plutôt cette fois-ci une forme d'exploitation nouvelle, finalement. Alors, certes, on contribue non pas de façon, disons, contrainte et forcée réellement, mais aussi parce qu'on y trouve un gain, certainement, des likes, des retours, des appréciations diverses et variées. La notion de servitude volontaire, je l'emprunte ici à Bernard Harcourt, qui montre effectivement qu'on n'est plus tellement dans une société de surveillance qui serait comme celle que décrivait Michel Foucault, c'est-à-dire qui reposant sur des institutions avec des dispositifs comme le panoptique, etc. On est davantage dans des modes de surveillance à ciel ouvert qu'aurait pu analyser Gilles Deleuze, mais encore plus, on est sur des surveillances qui s'appuie sur cette servitude volontaire, c'est-à-dire sur cet élan des internautes eux-mêmes à se dévoiler, à livrer, pour ainsi dire, sur la toile énormément d'informations qui les concernent, y compris des informations intimes, à accepter de céder et en signant tous les formulaires qu'on leur propose sans toujours les lire, c'est-à-dire d'être vraiment eux-mêmes le moteur, finalement, qui alimente cette société de surveillance, celle des GAFAM, mais aussi celle des gouvernements, puisque les deux sont assez étroitement liés.
D'autres questions ? Ok, donc ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va prendre une dizaine de minutes de pause, puis nous passerons à la table ronde. Merci. Donc ça nous donne un retour vers 40, vers 4h moins 20. Voilà. Si ça te va, c'est toi qui commence. Ensuite, ce sera Christophe. Et on terminera par toi, Julie.
Ok. C'est comme ça, merde, je vais faire
il y a une vidéo.
Signaux là. Non, on l'a pas. Donc, si on commence à travailler. Il faut peut-être. Excusez-moi, mais si on. Ça serait venir sur la vidéo. Et le son, je voudrais. Vous avez du son ce serait bien d'envoyer du son, qu'on teste le son, pour voir s'il arrive. Désolé, tout à l'heure, il y avait les bip bip quand on a manipulé, donc je l'ai coupé et puis. Comment ? On a mon. Oui, bon.
J'ai branché le HDMI.
Donc on l'a. Donc ça va arriver sur l'écran. Donc c'est bon. Et si on pouvait valider le son. J'entends quand même, parce que quand il a dit, j'ai réagi. Donc, comment ? Oui, alors il y en a deux.
Nous n'allons pas tarder à reprendre. Alors, s'il y a des gens à aller chercher à l'extérieur, n'hésitez pas à leur faire coucou pour leur dire que c'est le moment. Magnifique. Donc c'est bon, tout le monde est installé. Donc nous allons passer maintenant à la table ronde et à la... On attend le top. C'est bon, nous avons le top pour recommencer. Donc nous allons maintenant passer à la table ronde et à la discussion avec nos autres invités, Gwenola Wagon, Christophe Bruno et Julie Morel, qui vont tout d'abord vous présenter rapidement leur travail, puis nous passerons à la discussion en tant que telle, et bien entendu, vous serez invités à intervenir en posant vos questions. Voilà, donc nous commençons avec Gwenola Wagon. Gwenola Wagon, vous êtes artiste et vous enseignez à l'Université Paris 8. Votre travail imagine des alternatives et des récits paradoxaux pour déconstruire le monde numérique contemporain. Vous réalisez des films et des installations pour des festivals et des expositions en France et à l'étranger. Vous avez publié Psychanalyse de l'aéroport international avec Stéphane Degoutin. Votre livre Planète B vient de sortir aux éditions 369. C'est à vous.
Merci beaucoup. Alors, je suis très contente d'être là. Et juste pour une petite précision, je ne suis pas activiste pure et dure comme Paolo Sirio, qu'on a pu voir grâce à la présentation de Jean-Paul Fourmentreau, magnifiquement expliqué tout de suite. Mais par contre, peut-être, si je suis là, pourquoi suis-je ici ? C'est parce que j'ai un parcours qui m'a amené à plutôt proposer des pièces ou des projets filmiques ou des installations ou divers médias qui interrogeaient la technique et en particulier le numérique à travers des formes de détournement technique et de détournement aussi de certaines situations, et en m'intéressant particulièrement à des systèmes qui sont parfois plus ou moins oppressants ou qui pouvaient être plus ou moins aliénants pour les utilisateurs ou pour diverses circonstances. Alors là, c'est un peu large, mais je vais rentrer dans quelques pièces. Il y a en particulier des pièces que je faisais il y a une dizaine d'années Alors, je ne sais pas si ça peut s'afficher sur l'écran. Mais il y a une dizaine d'années, j'ai travaillé avec un artiste qui se nomme Stéphane de Goutin. Merci. Sur des pièces qui invitent les spectateurs à se déplacer dans l'espace public et à utiliser les techniques de manière un peu différente ou à réfléchir sur certaines techniques. Là, la pièce qu'on voit, c'est une pièce pour GPS où, au lieu de proposer un GPS qui vous permette de retrouver votre chemin, le GPS permettait de vous perdre et de vous perdre volontairement, avec plaisir, joyeusement, à l'infini, le temps que vous vouliez, avec un logiciel. Et alors, j'ai fait pas mal de pièces dans ce style de proposition qui renversait un peu l'usage habituel des techniques. Et là, par exemple, pour le random GPS, je partais du principe avec Stéphane qu'il était plus facile de se perdre assisté par un ordinateur que de se perdre volontairement tout seul, étant donné que dans certains lieux, on avait tendance à retrouver les mêmes chemins ou les mêmes situations et qu'on pouvait avoir des difficultés à errer ou à déambuler dans des lieux inconnus volontairement. Donc on utilisait la machine pour une situation différente. Et puis j'ai pas mal travaillé ensuite sur des détournements de lieux. Ici c'était La Défense qu'on avait transformé en parc d'attractions du travail, imaginant qu'on irait voir les derniers travailleurs en col blanc dans les bureaux, là où il restait encore un peu de travail. Et nous, joyeusement, on les regarderait travailler de l'extérieur en prenant des montagnes russes, des roller coasters, etc. Alors ces projets plus ou moins rigolos, utopiques, etc. ont parfois donné naissance à des vrais projets. Donc ce n'était pas toujours à l'état de projet sur le papier. Par exemple, ici, c'était un projet de proposition de reconversion des stocks, parce qu'en fait, on naviguait beaucoup dans les banlieues, les périphéries des grandes villes, sous forme de voyages, de visites, d'analyses urbaines. Et on s'était rendu compte que les espaces qu'on convoitait, sur lesquels on avait beaucoup d'affection, se transformaient par des énormes parallélépipèdes rectangles en tôle ondulée, qui étaient progressivement les entreprises du numérique qui s'installaient, par exemple, entre Charles de Gaulle Étoile et la Plaine Saint-Denis, et qui servaient à des nouvelles entreprises qui étaient en train de naître sous nos yeux. Alors, c'était Vente Privée, c'était Amazon, c'était Le Bon Coin, c'était eBay, etc. Et à chaque fois, ça prenait la forme de ces grandes boîtes de tôle ondulée auxquelles on a proposé d'autres formes de projets, en imaginant que le territoire, de ce territoire un peu caché, secret, pas forcément visible et souvent interdit aux piétons, puisse avoir une vie esthétique autre que cette forme-là, etc. Et tous ces projets, au bout d'un moment, ils ont fini par s'agréger et donner naissance à des récits et des histoires un peu plus complexes. Alors, par exemple, pour les aéroports, on a travaillé sur un livre qui raconte la manière dont l'aéroport a évolué, en particulier depuis le 11 septembre 2001 et surtout après, et comment cet aéroport s'est transformé en un lieu de surveillance, avec des appareils de détection, d'analyse du corps, de regard, de biométrie, et qu'il est devenu un peu un laboratoire à ciel ouvert des nouvelles techniques de décryptage de l'humain pour qu'il puisse passer ou non, suivant sa situation, suivant sa biométrie, si on veut, et suite à différents problèmes aussi de risques, hein, qui étaient parfois des risques complexes suivant les différents pays. Et donc ce livre analyse par le biais des psychoses, des névroses plutôt, chaque névrose du lieu, qu'elle soit la névrose autiste, le fait qu'il soit refermé sur lui-même, ou par exemple la névrose de l'obsession, ou la névrose du refoulé, le fait qu'il refoule pas mal de choses, etc. Alors voilà, donc ça m'a amené en fait à faire des récits, et c'est peut-être par ce biais des récits que j'en suis venue à... Alors je vais passer directement à un autre document. J'en suis venue à faire un livre. Qui vient de sortir et qui lui a pris directement une entreprise, voilà, qui s'appelle dans le livre A renversé, et un entrepreneur qui s'appelle B retourné, Et ce A et ce B sont un peu des archétypes. Alors, on peut voir un clin d'œil à Amazon. Voilà, de temps en temps, ça peut sauter aux yeux. Mais c'est un peu plus flou que ça. C'est volontairement une entreprise, en quelque sorte, archétypale, avec un entrepreneur archétypal qui a toute une vie, depuis qu'il est petit, a rêvé de créer cette entreprise monstrueuse, mégalomaniaque que vous connaissez, et qui pourrait être une autre GAFA, hein, ça pourrait être Facebook, ça pourrait être un autre type de ces GAFAM, et qui est devenu tellement énorme et tentaculaire que pour l'appréhender, j'ai décidé de faire plusieurs enquêtes. Alors, dans le livre, il y a 4 parties. Il y a une partie sur l'imaginaire du spatial, le moment où on décolle de la Terre pour s'évader de tous les côtés, alors dans l'espace, dans des paradis fiscaux, par l'imagination, dans le rêve, etc., dans des fictions, dans des diversions, si vous voulez. Et il y a une partie beaucoup plus sur le territoire, qui s'appelle. Il y a une partie sur l'algorithme, qui s'appelle la société du clic, qui raconte comment est né l'hypermarché, le grand hypermarché, et comment ça a donné naissance au supermarché en ligne. Et puis, par la suite, cette partie qui raconte toute l'histoire du supermarché m'amène à parler progressivement de ce territoire que j'appelle le territoire des hangars, qui est très invasif, en fait, et qu'on ne voit pas, et dans lequel on ne se rend pas compte, et qui existe autour de nombreuses villes du monde entier. Et qu'est-ce que ça fait au territoire et qu'est-ce que ça raconte aussi de la ville et de la société que de fabriquer ce territoire-là. Donc j'explore un peu l'architecture des lieux et puis je passe ensuite sur d'autres parties qui, elles, vont parler progressivement de l'imagination et la manière dont l'imaginaire de ce type de société vont influencer aussi notre imaginaire et comment on pourrait créer un imaginaire de résistance qui ne soit pas celui très simplifié, assez peut-être toxique, en fait, finalement, d'une forme d'imagination réductrice qui nous réduit énormément le champ des possibles en nous emmenant dans des récits un peu touffés, peut-être assez standardisés. Et donc, c'est une sorte de récit de contre-imagination. Désolée.
Non, excuse-moi. Ne sois pas désolée, c'était juste le bon moment. Merci, Gwenola. Nous allons maintenant passer à Christophe Bruno. Christophe Bruno, vous avez investi la mouvance du net art au début des années 2000 en détournant de manière poétique et sensible Google AdWords, la régie publicitaire de Google. Artiste plasticien polymorphe, vous vous aventurez aujourd'hui sur de nombreux médiums, allant de la sculpture au NFT, en passant par la performance pour proposer une réflexion critique des phénomènes de réseau dans les champs de l'image et du langage. Artiste résident à l'IMERA, Institut d'études avancées d'Aix-Marseille Université, programme Arts, Sciences et Sociétés, et lauréat du programme Résidence hors les murs Villa Médicis 2016 de l'Institut français, catégorie Arts numériques. Vous intervenez depuis 2013 dans les workshops Improbables, les ateliers d'Art Thinking de l'Institut Jean-Baptiste C, et vous donnez des conférences au Collège de France et à l'Université de Stanford. C'est à vous.
Bon, merci beaucoup. Alors, j'ai demandé à Gwenola de me tenir le micro parce qu'en fait, je viens de réaliser que je ne peux pas parler et surfer en même temps. Donc, je vais... Je vais parler de quelques projets plutôt très, très anciens, puisqu'en fait, moi, j'ai... comme beaucoup d'artistes, d'ailleurs, sur le web, peut-être moins, c'est moins vrai aujourd'hui parce que maintenant, il y a des écoles d'art qui enseignent le numérique, mais... à l'époque, quand j'ai commencé, ça prenait nulle part. Il n'y avait pas d'école, les écoles d'art ne connaissaient pas du tout ces choses-là. Et moi, je viens d'un monde complètement différent, puisque j'ai été formé, je faisais de la recherche en physique théorique, j'ai travaillé dans des start-up, etc. Et en réalité, j'arrive dans la suite d'un mouvement des années 90 qui s'appelait le Net Art. Moi, j'arrive au moment où ce mouvement-là s'est déjà autodissous, un peu à l'image des zones d'autonomie temporaire dont parlait Jean-Paul, mais qui est extrêmement inspiré de l'esthétique pirate, toutes les idées d'utopie libertaire qui circulaient autour de l'émergence du web. Et, euh, euh, et Et donc, c'est l'époque de l'émergence d'un nouvel acteur qui s'appelle Google, qui, faut se rappeler, à l'époque, Google, c'est quand même considéré comme aujourd'hui comme un des outils principaux de la surveillance. Mais à l'époque, c'est vraiment l'émergence du Web 2. Avant le Web 2, c'est vraiment une société qui arrive et qui représente une espèce d'utopie qui vient des universités, en fait, des hackers, des pirates du web. Et elle n'a pas du tout cette image de société capitalistique, etc. Donc, en 2002, donc ça c'est vraiment le projet, je vais essayer d'aller vite, hein, mais aujourd'hui, bon, je pense que tout le monde connaît les AdWords, hein, vous prenez votre carte bleue, vous achetez des mots sur Internet. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait, mais à l'époque c'était extrêmement surprenant, c'est-à-dire j'ouvre un compte pour $5 et je peux acheter tous les mots de toutes les langues et faire venir les internautes sur mon site. Et donc je commence, je trouve ça assez étonnant, et voilà, et le texte raconte comment j'ai essayé de faire des espèces de campagnes de pseudo-poésie pour détourner les internautes de leur parcours utilitaire, et je suis évidemment pas poète. Comment j'ai été censuré par Google. Alors, ce n'est pas une censure comme celle de Paolo Cirio, c'est-à-dire que souvent, quand j'essaie d'expliquer mon travail, j'explique que oui, je suis une sorte de hacker, mais un hacker homéopathique. C'est-à-dire, ici, je suis quelqu'un qui n'a rien à dire, une sorte de poète raté. Et ce que me reproche Google, c'est que le fait que mes campagnes de poésie n'aient aucun intérêt, et que mon taux de clic soit trop bas, ça met en péril la dynamique économique du système qu'ils sont en train de mettre en place. Voilà, donc le premier mot que j'achète, c'est Symptom, et la première campagne, c'est Words aren't free anymore, bicornuette, bicervical, utérus, one-eyed, demi-vagina. Je ne me rappelle pas du tout pourquoi j'ai pensé à ça à ce moment-là. Et j'ai 5500 personnes qui l'ont vu, 16 personnes qui ont cliqué et j'ai dépensé 80 cents. Voilà. Donc ce système que tout le monde connaît aujourd'hui, qui a fait que Google est devenue la société la plus importante du capitalisme numérique contemporain, c'est vraiment le moment où cette chose émerge. Et au bout d'un moment, le robot de Google commence à m'envoyer des mails en me disant que mon taux de clic est trop bas et me demande de réécrire mes poèmes. Enfin, le robot qui s'appelle... robot de surveillance de la performance, ça ne s'invente pas, qui me demande de réécrire mes poèmes pour améliorer la qualité de l'efficacité de mes campagnes. Et donc finalement, mon compte est coupé. Et c'est là que j'écris ce texte. Et évidemment, comme toujours, la censure, à l'époque, je suis même pas artiste hein, quand je fais ça. En 24 heures, je suis passé dans le monde de l'art. Mais évidemment, c'est la censure qui a fait que ce texte-là a été... du jour au lendemain, visité par des millions de personnes. Enfin, aujourd'hui, c'est extrêmement banal, mais en 2002, c'est extrêmement violent. Voilà, il faut se remettre à l'époque, il y a presque 20 ans, où personne n'est habitué à cette visibilité, à cette intensité-là. Voilà, donc j'écris ce texte sur le capitalisme sémantique. J'explique que chaque mot de chaque langue a un prix. Voilà, le mot le plus cher, c'est free, gratuit, 7 500 $. Dieu vaut 10 $, etc. Et je me dis... voilà, finalement, qu'est-ce que ça veut dire le fait que les parcelles de notre intimité, les mots, notre langage, soient mis à prix sur un marché. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle puisque finalement, si effectivement on est des êtres de langage, finalement, le capitalisme, la marchandisation du capitalisme serait arrivée à une sorte de fond, de particule ultime au-delà de laquelle il ne pourrait plus aller. Donc ça, si vous êtes de gauche, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est un point d'arrêt pour le capitalisme. Voilà. Si vous êtes de droite, c'est pas forcément une bonne nouvelle. En réalité, donc, voilà, dans ce texte, je me pose la question, je me dis, mais c'est un moment important dans l'histoire de l'humanité, il n'y en a pas beaucoup comme ça, il y a l'invention de l'écriture, par exemple, l'invention de la monnaie, mais c'est des cycles très longs, de plusieurs milliers d'années, et là, il y a une espèce de conjonction entre l'argent et le langage, extrêmement étrange. C'est fini déjà ? voilà, la suite a prouvé qu'en fait, le capitalisme pouvait aller beaucoup plus loin. Et donc, en fait, ce n'était pas une bonne nouvelle. Voilà. Je vous montre très rapidement un autre projet.
Qui est aussi de assez ancien. Qui est un fake.
Donc dans la grande tradition. Le fake, c'est une sorte de presque d'une catégorie artistique. Hein. C'est les artistes qui ont inventé les fake news, quand même. Et donc là, c'est une campagne de marketing pour un patch qui n'existe pas, qui vous permettrait de partager en temps réel la souffrance de l'humanité. Chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle, ça détecte des mots-clés que vous pouvez choisir et ça vous envoie une décharge électrique. Donc ça date de... vous avez le témoignage des utilisateurs. Ça date de 2003. Jean-Paul parlait de la. Enfin, c'est inspiré de la soumission, l'expérience de soumission à l'autorité de Stanley Milgram. Et Jean-Paul parlait du texte de La Boétie, de la servitude volontaire. Il a prononcé 4 fois le mot de servitude volontaire, j'ai repéré. Voilà. Et donc, relisez ce texte d'Étienne de La Boétie du XVIe siècle. Hein, un texte extrêmement actuel. Éclairant, voilà. Donc là, le patch, j'ai réussi à le fabriquer au bout de quelques années, et donc j'ai pu électrocuter des milliers de personnes qui faisaient la queue et qui se soumettaient à mon autorité. Donc aujourd'hui, je travaille, je fais beaucoup de projets sur l'intelligence artificielle. Ici, voilà, c'était une expo à la Cité internationale des arts. Avec une pratique assez naïve de l'intelligence artificielle. Je travaille avec une historienne de l'art qui s'appelle Christelle Desbordes. Voilà, ça, là, par exemple, j'ai entraîné une intelligence artificielle de chez Uber qui est censée conduire des voitures et je lui ai appris à peindre. Voilà ce qui arrive. Je vais très vite. Là, c'est une intelligence artificielle qui a été nourrie des dessins et des textes sur Léonard de Vinci et qui a reproduit un dessin qu'aurait pu dessiner Léonard de Vinci à l'âge de 3 ans. Voilà, des choses comme ça. Et là, je suis à l'IMERA pour travailler sur un projet, je n'ai pas le temps de vous le montrer, mais c'est une topographie de l'inconscient à ciel ouvert des GAFA, enfin des GAMA, maintenant. Un moteur de recherche, d'association d'idées. Et l'idée, c'est une sorte de GPS de ce métaverse, puisque, comme vous le savez, la dynamique économique de ces big tech, c'est de prédire notre désir avant même que nous l'ayons désiré. Et donc pour ça, il faut réinvestir, utiliser leurs propres technologies pour essayer de comprendre quel est le dessous des cartes de ces choses qui ont pris le contrôle de notre vie. Voilà. Désolé.
Tu vas dévoiler l'inconscient des GAFA, des GAMA. Merci Christophe. Nous passons à Julie Morel. Julie Morel, vous êtes une artiste qui a participé à de nombreux collectifs, Incident.net, Compost, Le Sans-Titre. Vos propositions plastiques et graphiques, souvent liées à l'histoire de l'art conceptuel, sont dirigées vers la textualité, les différents aspects du texte écrit. Votre pratique, alimentée par une volonté d'interroger les relations qu'entretient l'homme avec le langage, se développe sous diverses formes, éditions, dispositifs interactifs, sites internet, installations, dessins, ateliers collaboratifs. Vous explorez ainsi différents champs de l'écriture, la littérature, la traduction, le code informatique, le métalangage, le commentaire, la partition. Votre travail est exposé en France et à l'international. Vous enseignez les pratiques éditoriales et numériques à l'ESSAD Tours. C'est à vous.
Donc pour résumer, en gros, j'explore quand même effectivement depuis un petit moment la question du texte. Et quand j'ai découvert, pour le coup, Internet dans les années fin des années 90, j'ai été tout de suite passionnée, j'avais jamais touché un ordinateur, j'ai tout de suite été passionnée par le fait que c'était une machine qui était une machine de langage et qui pouvait permettre d'écrire différemment de ce que je connaissais à l'époque. Je vais vous présenter juste 4 projets. Il faut aussi que je dise, c'est qu'à l'époque, en art numérique, les femmes se comptaient sur le doigt d'une main. Et puis je faisais partie d'un collectif où on était... strictement paritaire, mais comme par hasard, c'était toujours les mecs qui étaient invités, alors qu'on était un collectif. Donc je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de faire une sorte d'activisme soft, parce que j'étais pas vraiment activiste dans ma pratique, mais plutôt dans les réseaux que j'ai essayé de développer. Et donc j'ai développé des résidences d'artistes qui étaient avec une stricte parité dans un premier temps, puis après j'ai juste viré les gars. Et donc voilà, en détournant une bourse pour les associations de la DRAC, j'ai commencé à inviter des artistes numériques, des artistes numériques, pour faire des résidences. Et puis la deuxième chose aussi qui m'interrogeait déjà à l'époque, c'était la question du changement climatique. Voilà. Et donc j'ai commencé à faire des projets un peu toujours de manière timide sur ces questions-là, mais de plus en plus ça a émergé. Donc là, pour le coup, c'est un projet donc, qui s'appelle Clear Deep Dark, qui font les trois mots font référence au Clear Internet, le Deep Web et le Darknet. Mais surtout à la manière dont les flux ces réseaux-là grandissent de manière exponentielle, et les flux réels, c'est-à-dire les différents états de l'eau, on va dire la glace, les rivières, les océans, là commencent à se dessécher ou à s'arrêter. Et donc là, il s'agit de la disparition à la fois des glaciers, des rivières et des lacs sur la planète. En fait, il s'agit de trois maps mondes avec les rivières, lacs et glaciers qui ont disparu dans les 10 dernières années. Donc ça, c'est encore une fois ces mêmes expositions. Je présentais aussi des coordonnées GPS d'endroits où la mer était en train de recouvrir certains territoires, sachant que de manière personnelle, j'étais assez touchée par ça, puisque mon compagnon a perdu deux fois sa maison dans le sud des États-Unis suite à des ouragans. Et j'ai commencé à mener des recherches sur le sud-ouest de la Louisiane et sur d'autres endroits où j'ai pu aller, notamment au Népal et puis dans le Pacifique Sud, sur des atolls, d'endroits qui étaient en train de disparaître, ou en tout cas tout un écosystème qui était en train de disparaître dû à la montée des eaux. Et voilà, j'allais déposer des petites pièces en céramique, on va dire des œuvres destinées à personne, si ce n'est à être recouvertes par les eaux, des pièces qui sont, on va dire, sans impact écologique au moment de leur diffusion, mais bien sûr au niveau de leur production, faire combien de gaz on prend pour faire une pièce en céramique, à un moment il faut produire. Donc là on a quelques exemples. Il s'agit de sérigraphie à l'encre conductrice. Donc c'est à la fois des dessins ou des sérigraphies avec de l'encre. Donc c'est à la fois l'outil technique qui sert à faire le dessin, mais qui conduit aussi l'électricité vers des LED, vers des points lumineux qui marquent des endroits en train de disparaître. Suite à ça, j'ai fait une édition avec une personne de l'ESAB à Quimper, donc l'école d'art là-bas, sur un projet qui s'appelait Pratique du hacking. Et là, j'ai décidé encore une fois, il s'agit toujours de questions de qu'est-ce qu'on révèle, qu'est-ce qu'on cache, qu'est-ce qui est lisible, qu'est-ce qui est illisible, qu'est-ce qui est visible, qu'est-ce qui est invisible. Et là, donc, il s'agissait d'une édition qu'on peut à la fois télécharger en ligne, et puis j'en ai fait imprimer à la demande sur tout un tas de qu'est-ce qui est caché derrière un projet artistique, quelles sont les recherches qui mènent à un projet dans l'espace d'exposition, mais avec tout un tas de détours sur les recherches faites sur Internet au préalable. Je passe assez vite. Là, la question aussi, alors ça c'est un livre que j'ai fait en collaboration avec Catherine Lenoble, qui est une autrice qui dirige un Fab Lab. Et on est parti, à l'époque je faisais un projet autour de l'art dans les milieux extrêmes. On est parti au Népal, mais aussi on est parti sur Internet. Alors on est parti à la recherche d'une plante. Alors si tu peux me tenir juste. Merci. Alors bon, ça va être tout petit, mais vous verrez un petit peu plus là, l'image qui est voilà, ici. Donc, il s'agit d'une plante qui s'appelle le Rheum nobile et qui est assez intéressante puisqu'elle vit au-delà de 2500 mètres d'altitude. Et on l'appelle aussi la plante serre, puisque en son sein, elle fait plus d'1,50 m de haut quand elle est à son maximum. Elle abrite d'autres plantes qui bénéficient du fait que cette plante arrête les ultraviolets. Et donc l'idée, c'était de partir à la recherche de ce Rheum nobile qui pousse notamment au Népal. Et bien sûr, le voyage a été un échec cuisant, puisque avec le changement climatique, au moment où on devait voir la floraison de cette plante, il n'y avait absolument rien, il n'y avait que de la neige. On a produit un livre avec uniquement des images qu'on a fait sur place, mais aussi tout un tas d'images de touristes internet où on a pu comme ça se documenter sur cette plante. Il s'avère qu'à ce moment-là, au Népal, il y avait des manifestations pour l'écriture de leur première écriture de la Constitution. C'était en 2012. Ça a fait se télescoper tout un tas d'interrogations sur le tourisme de masse, etc. Donc ça a donné ce livre qui est ici. Et dernière chose... je travaille aussi à partir d'une base de données de peinture qui est une peinture de genre, les liseuses, je regarde toute une gestuelle de lecture, la lecture des femmes depuis le Moyen-Âge, et j'en produis des journaux. Alors j'ai une base de données de plus de 4000 images que j'ai constituées moi-même. Et ensuite, je viens piocher avec des filtres tout simples. Voilà, par exemple, c'était la lecture interrompue et la femme qui regarde le lecteur. Et puis, en 2004, j'ai commencé aussi à faire des générateurs de texte. Alors, je vous en montre juste une petite image ici, qui était un générateur de texte qui régénérait Alice au Pays des Merveilles. Mais ce sont tous des générateurs de texte qui sont dysgraphiques ou dyslexiques, chose que moi je suis. Voilà. Et donc, suite à ça, je me suis moi aussi mise à travailler avec les intelligences artificielles, toujours sur la peinture des femmes liseuses. Et alors là, pour le coup, je n'ai pas du tout travaillé le côté textuel de la chose, mais uniquement la fonction la plus simple de l'intelligence artificielle, qui est la variation, puisque c'est pour moi la plus basique opération et l'opération où moi, je ne suis pas vraiment en train de médiatiser l'intelligence artificielle, mais je la laisse parler. Et donc, le résultat est, tellement évident que je n'ai même pas besoin d'en parler. Donc, de 5 générations de la première image, j'ai choisi une image, j'en ai généré 5, etc., etc., jusqu'à l'image du bas. Et je m'arrête là.
Merci Julie. Je vous propose qu'on commence la conversation. Vous pouvez prendre les micros qui sont devant vous, si vous le souhaitez. Ouais, si vous pouvez faire ça.